Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 18 décembre 2025. Des nouvelles du monde qui seront donc les dernières pour cette année, puisqu'ensuite, avec deux semaines de congé bien mérité, on se retrouvera donc à la rentrée. Voilà. Pour aujourd'hui, on va faire un joli tour d'Europe, puisqu'il y a pas mal de mouvements de contestation populaire qui ont lieu pas mal en Europe. Avant ça, on va aussi aller faire un tour du côté du Parlement, où sont votés en ce moment donné des paquets de lois qu'on appelle omnibus, et c'est pas du joli joli, pas mal de recul prévu en tout cas sur les côtés de la réglementation européenne, notamment environnementaux, et des contrôles qui s'appliquent aussi sur les grandes entreprises. On va aussi parler du droit de la presse qui est de plus en plus attaqué, avec quelques procédures bâillon sur des médias français qui révèlent des choses qui visiblement ne plaisent pas à tout le monde. Et puis voilà, on s'écoutera un petit Pussy Riot aussi pour finir, parce qu'elles aussi subissent des procès. Je vais d'abord donc essayer de vous parler un petit peu de ces fameux omnibus. Voilà. En effet, cette semaine, ainsi que les précédentes, hein, du côté du Parlement européen, des omnibus passent. Alors, ce ne sont pas des petits cars remplis de députés, non, non. Ce sont des paquets de lois de simplification, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays qui amènent des choses ont été votées. Il y a peut-être pas mal de choses qui sont un peu des usines à gaz du côté de la réglementation européenne. Et donc, a priori, un omnibus, c'est juste quelque chose qui est fait pour un petit peu simplifier l'application, notamment des directives européennes. Le problème, c'est que ces omnibus sont portés de plus en plus, et en ce moment, ils sont en force, par une alliance droite-extrême droite. Et donc, sans surprise, ça s'attaque beaucoup, pas mal, au droit environnemental, qui, pour eux, est un frein à la compétitivité des entreprises. Alors, une loi omnibus, ça peut être une directive ou un règlement européen. Je vous laisse aller googler la différence. On va pas non plus faire un cours de droit européen maintenant. En tout cas, son objectif principal, c'est de simplifier, d'harmoniser ou d'adapter le cadre réglementaire pour répondre à des enjeux spécifiques, tout en réduisant la complexité administrative pour les parties prenantes. Officiellement, donc, un projet de directive omnibus ambitionne d'assurer une meilleure cohérence entre toutes les initiatives législatives, en réduisant aussi les charges administratives pour les entreprises, puisque là on est pas mal sur le droit du commerce et donc des obligations des entreprises sur le marché européen, ou même d'entreprises extérieures à l'Europe qui voudraient vendre par exemple des produits en Europe. Alors, un des derniers volets qui a été étudié il y a deux jours, hein, et validé par le passage au Parlement, il vise à supprimer la réévaluation régulière des pesticides dans l'Union européenne, réévaluer régulièrement les pesticides, c'est-à-dire au fur et à mesure que les nouvelles recherches avancent, revérifier si la décision qu'on a prise par exemple il y a 5 ans sur la dangerosité supposée ou pas vaut toujours. Donc ça revient pour les défenseurs en tout cas de l'environnement et ceux qui essayent de réguler les pesticides à accorder des autorisations sans limite de durée à de nombreuses substances. C'était ce mardi que ça s'est passé à Strasbourg. Le commissaire hongrois Oliver Varelli a présenté son nouveau plan pour l'Europe. Il l'appelle donc un paquet omnibus consacré à la sécurité alimentaire, et c'est donc de pesticides dont il est question. Tout comme les précédents, parce que c'est le 10e omnibus quand même, hein, qui est en train de passer. Il est donc encore décidé, je vous l'expliquais, à amender des textes qui existent déjà. Conçu officiellement pour réduire les charges réglementaires inutiles, il marque pour les observateurs la réforme la plus profonde du cadre européen de régulation des pesticides depuis la directive de 2009. Et c'est une réforme qui ne va pas dans le sens de plus de contrôle. En effet, sous couvert de simplification, cet omnibus prévoit, entre autres, un assouplissement des procédures d'autorisation des produits phytosanitaires avant leur mise sur le marché. Une première mouture avait d'ailleurs été révélée à la mi-novembre par le média spécialisé Contexte et elle avait déclenché une levée de bouclier immédiate. Hein. Une centaine d'organisations de protection de l'environnement avaient dénoncé ce projet dans une tribune. Ils ont d'ailleurs été rejoints par plus de 2300 médecins dans un second texte collectif. Oui, car qui dit phytosanitaire dit possiblement cancer dans la population. Et donc toutes et tous mettaient en garde d'une même voix contre une réforme qui ferait pour eux reculer l'Europe de 30 ans. Depuis la publication donc, de la nouvelle version de l'Omnibus, qui vient d'être validée, certaines des organisations ont de nouveau pris la parole. Le paquet législatif a en effet été légèrement édulcoré, mais pour eux, le verdict reste le même. Il est inacceptable, notamment, par exemple, pour l'association Antipesticides Génération Future. Et selon elle, justement, les réglementations fonctionnent, puisque 2011, le réexamen obligatoire des pesticides, qui avait lieu jusque-là, avait justement permis d'interdire 31 substances jugées trop nocives pour la santé ou la biodiversité. Voilà pour l'Autrichien Helmut Burscherschaden, qui fait partie du PAN, le Pesticide Action Network, donc le réseau d'action pesticides. C'est un virage à 180 degrés par rapport au Green New Deal européen. Et ils sont donc vent debout contre ces omnibus qui passent en ce moment. Le second omnibus qui est passé, lui, la semaine dernière, a par exemple été révélé et relevé sur les médias sociaux par Claire Nouvian, qui fait partie de l'ONG Bloom, hein, qui s'attache entre autres à la défense des océans et notamment de la surpêche. Mais là, elle s'intéresse plutôt aux droits qui concernent les multinationales. Alors, elle explique « Le Parlement européen, donc, nous dit-elle, vient d'entériner l'omnibus 1 pour détruire le devoir de vigilance des entreprises ». C'est-à-dire, elle explique, ce qui était la seule loi jusque-là qui forçait les lobbies industriels prédateurs de la misère humaine, de la nature et du climat à rentrer dans le champ du droit. Le tout, donc, avec cet omnibus, se ferait sur une révision des règles en matière de durabilité, ce qu'on appelle, par exemple, la pêche durable, ces choses-là, et le devoir des vigilances pour les entreprises. C'est aussi, rappelle-t-elle, la première législation qui est forgée par une alliance inédite de la droite et de l'extrême droite, qui sont très puissantes au niveau du Parlement européen, et qui d'ailleurs a été rejoint sans surprise par la droite libérale d'Emmanuel Macron et de Valérie Ayer. Le Parlement européen avait déjà adopté, le 13 novembre dernier, une directive omnibus qui modifiait plusieurs textes relatifs au reporting de durabilité et au devoir de vigilance des entreprises. Bon, en gros, cette réglementation va supprimer l'obligation pour les multinationales de respecter l'accord de Paris sur le climat. Tout simplement, donc on parle d'émissions de gaz à effet de serre. On peut reporter, pour des raisons de business, en gros, de compétitivité, tout ce qui est lié aux émissions de carbone. On peut reporter ça plus tard sur d'autres périodes. Pour elle, donc, ce vote est un permis de tuer le climat, de piller les ressources, de polluer les écosystèmes et d'exploiter les travailleurs du monde qui est donné aux multinationales. C'est le rétablissement des privilèges. Elle titrait aussi sur sa page Facebook et sur X. Cette nuit, les institutions européennes ont adopté pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une législation, une loi de régression qui ouvre une longue série d'omnibus de démolition du Green Deal, pensé puis voté par une alliance inédite entre la droite et l'extrême droite. Pour elle, cet autre omnibus donc, aura pour résultat que les multinationales les plus destructrices, que ce soit des droits humains, sociaux ou de l'environnement ou du climat, retrouvent une impunité totale, puisqu'elles ne seront donc plus obligées de respecter l'accord de Paris.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On va parler maintenant de la liberté de la presse, qui est elle aussi attaquée, en tout cas quand la presse dénonce des choses qui ne plaisent pas aux tenants d'autres gros médias. On va parler du média Street Press, dont je vous parle quelques fois ici, qui est un média qui est vraiment axé sur l'observation et la dénonciation de l'extrême droite. Ce média se retrouve avec 13 procès sur le dos, des procès qu'on peut appeler des procédures bâillons, hein, puisqu'elles visent à limiter l'action de ces journalistes, quel que soit le résultat, puisque ça coûte cher. Donc 13 nouvelles procédures bâillon en 15 jours ont été reçues par le média Street Press. On peut citer dans les dernières arrivées une qui émane du chef des néo-nazis parisiens, hein, il s'appelle Marc de Cacqueret-Valmenier, je vous en parle souvent, c'était le chef des Zouaves. Donc chef de la mouvance néo-nazie parisienne, très violente notamment avec des faits de 2018 à 2024. Les Zouaves ont été dissous en 2022, Il est à l'origine de la réactivation du GUD jusqu'à sa dissolution là aussi en 2024. Et depuis, il est embauché, je crois qu'il est chef de la sécurité par M. Bolloré sur son île. La deuxième personne d'ailleurs qui vient de porter plainte, c'est n'est rien d'autre que la femme de Marc de Cacréval-Meunier. Hein. Et elle s'appelle Liselotte Dutreuil et elle est animatrice star sur Radio Courtoisie. On peut citer dans les autres personnes qui ont fait des procès Le Raptor, un célèbre youtubeur avec presque 700 000 abonnés, lui aussi qui reproche aux médias d'avoir expliqué qu'il était à l'origine d'un groupuscule violent. L'épouse d'une députée Rassemblement National, Tiffany Joncourt, l'époux pardon, de la députée Rassemblement National, Tiffany Joncourt, n'a pas apprécié que le média révèle qu'il était membre d'un groupe de hooligans néo-nazis. Luc-Étienne Gousseau, un candidat RN aux législatives, lui, fâché visiblement que le média ait évoqué ses liens avec une communauté catholique intégriste qui est surveillée par les autorités. Donc tout ça, c'est des articles hein, qui ont été publiés par Street Press. On peut citer aussi une société longtemps dirigée par Axel Lousteau, un néo-fasciste proche de Marine Le Pen, qui elle non plus n'est pas contente qu'elle ait été nommée par Street Press. Selon elle, elle aurait perdu quelques millions à cause de l'article. On peut parler de l'ancien leader d'un groupe identitaire du Sud, j'ai pas son nom, j'espère qu'il habite pas trop loin d'ici, qui assure de son côté qu'il n'est pas violent. Une association antispéciste d'extrême droite, qui n'aime pas qu'on dise qu'elle est d'extrême droite, visiblement. Un criminel contre l'humanité franco-argentin, qui est en prison, mais qui intente des procès, notamment encore un contre Street Press. On va citer Éric Tenier, puisqu'on parle pas mal de son média F-Frontières, un magazine d'extrême droite, qui reproche à Street Press d'avoir relevé des propos aux relents antisémites, puisqu'il y a un article d'ailleurs qui vient d'être publié aussi sur Street Press ce lundi sur tout ça. Et enfin, pour conclure cette belle brochette, un maire étiquette LR du sud-ouest de la France qui n'apprécie pas visiblement que le média Street Press ait raconté comment depuis son élection, la commune a basculé dans un climat islamophobe et anti-maghrébin. C'était donc lui le 13e de l'équipe. Donc voilà, beaucoup de procès bâillons contre Street Press. Chaque fois, il faut aller aux audiences, payer des avocats, préparer sa défense. Donc, ils sont en galère financière. Et sur la page, si vous souhaitez aller leur faire un don de n'importe quelle somme ou un abonnement, aussi, il y a des contreparties d'ailleurs, vous pouvez y aller. Vous soutiendrez un média qui, de son côté, affirme mener la bataille culturelle contre l'extrême droite. D'ailleurs, ils ont aussi mis en place tout un système de formation pour les journalistes ou citoyens lié au municipal qui arrive, voilà, avec des éléments factuels, des éléments de tactique, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Bon, donc Street Press se fait attaquer, mais de leur côté, d'ailleurs, ils ont aussi décidé de porter plainte. Puisque la semaine dernière, ils ont reçu beaucoup de menaces directement ciblées sur les téléphones portables de leurs journalistes. Ils expliquent « Depuis des années, nous subissons des menaces parfois de mort venues notamment de l'extrême droite. » En 2024, par exemple, un militant d'extrême droite avait tweeté « Street Press doit devenir le prochain Charlie Hebdo ». Et il ne parlait pas de Charlie Hebdo dans le sens de un média satirique, il parlait visiblement de l'attaque qui a touché la rédaction de ce média. Donc la semaine dernière, donc des menaces quand même assez violentes. La semaine dernière, plusieurs de ces journalistes ont reçu donc des SMS sur leur téléphone avec menaces de mort ou des insultes racistes et très ciblées. C'est-à-dire que les gens se sont informés sur leur vie privée. Donc c'est pas très rassurant quand on fait ce métier. Voilà, donc je vous invite à les soutenir et puis à aller lire leurs articles, comme par exemple ce dernier qui s'intéresse à la situation à Brest, avec notamment l'attaque d'un bar du centre-ville qui a eu lieu au mois de septembre. Et pas mal d'agressions dans les rues. Depuis, ça s'est un petit peu calmé. Mais un groupuscule d'extrême droite semble se structurer, notamment en recrutant ses membres au stade brestois parmi les hooligans ou à la base navale où travaillent aussi de nombreux marins. Voilà, ça c'est le dernier en date sur le site de donc Street Press. Je crois que c'est un point .com, si je dis pas de bêtises. Allez, un autre procès bâillon sur les médias. C'est la saison en ce moment, hein. C'est joyeux Noël pour toutes les petites rédactions. C'est le groupe Thalès qui poursuit le journal Disclose en diffamation. Poursuit la rédaction donc de Disclose. Thalès, hein, multinationale française, notamment de l'armement, et un équipementier, on va dire, s'en prend aux révélations du média en ligne Disclose, sur une livraison secrète de matériel de guerre, notamment des drones, qui a eu lieu en juin 2024 à destination d'Israël. L'armée israélienne intensifie alors ses attaques sur Gaza, où elle est toujours accusée de nombreux crimes de guerre. Ce sont les journalistes Ariane Lavrieux et Mathias Destal qui sont auteurs de cette enquête, avec Magali Serre, la directrice de la publication, qui vont devoir passer devant le juge mis en examen. Un juge d'instruction, donc, dans son communiqué, disclose, affirme là qu'il s'agit encore d'une procédure bâillon. Et d'ailleurs, le syndicat national des journalistes apporte son soutien aux médias. Pour le SNJ, il ne fait aucun doute que la plainte en diffamation est destinée à épuiser et à intimider une rédaction dont le travail d'intérêt public met en lumière certaines activités de Thalès. C'est pas la première fois que ce média en ligne est l'objet d'attaques répétées. Ariane Lavrieux, c'est un nom qui vous parle déjà, certainement, puisqu'en septembre 2023, cette journaliste avait été perquisitionnée à domicile à Marseille par la police, puis placée en garde à vue. Ce qui était une première, c'est en effet la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui cherchait à identifier les sources d'une des enquêtes qui avait été publiée. Or, la protection des sources fait partie des droits de la presse. La DGSI voulait savoir qui avait parlé à Disclose. Elle avait été d'ailleurs placée sur surveillance, sous surveillance en amont, sans qu'elle le sache, ce qui est là aussi interdit. En cause, des révélations de cette journaliste en 2021, notamment d'une opération de renseignement française au profit de l'Égypte. Depuis d'ailleurs, la journaliste a obtenu un non-lieu devant les tribunaux, mais le parquet général de la Cour d'appel de Paris, lui, a fait appel de ce jugement.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Du monde.
Allez, on part du côté de l'Europe de l'Est et des Balkans, où je sais pas si on va chez le coiffeur, mais en tout cas les jeunes et les moins jeunes sont dans la rue, bien décidés à changer leur monde. Tout d'abord, c'est en Bulgarie que le gouvernement démissionne. Le Premier ministre Rosen Zeliatskov a annoncé jeudi dernier, donc le 11 décembre, la démission de son gouvernement suite à une nouvelle manifestation monstre dans le pays. Des manifestations qui veulent dénoncer la corruption qui a lieu au sein de l'État. La décision donc du Premier ministre de dissoudre son gouvernement survient au lendemain de grandes manifestations qui ont lieu à travers tout le pays. Des dizaines de milliers de Bulgares, donc rien que 100 000 à Sofia, la capitale, étaient dans la rue pour dénoncer la corruption qui touche l'appareil d'État. Nous entendons la voix des citoyens qui protestent contre le gouvernement, a déclaré le Premier ministre, actant ensuite sa démission. C'est d'ailleurs au cri de non à la mafia, tout simplement, que les manifestants ont finalement donc fait tomber leur gouvernement. En gros, ils affirment que si hier les mafieux se cachaient, aujourd'hui ils ont pris les abris de l'extrême droite et sont au pouvoir au gouvernement, en étalant leur corruption quasiment au grand jour et sans complexe. L'annonce de la démission du gouvernement a eu lieu peu avant qu'un nouveau vote de confiance ne soit soumis au Parlement. C'est quand même le sixième vote de confiance depuis janvier, date de l'arrivée au pouvoir. Quand on a besoin d'autant de votes de confiance, effectivement, c'est que la confiance n'a pas l'air très solide. Ce qui a alimenté un petit peu la colère des manifestants, chez eux aussi, c'est le budget. Le budget 2026 qui a été présenté par le gouvernement. Il prévoyait notamment une augmentation des impôts, un relèvement des cotisations de sécurité sociale et une augmentation des dépenses de l'État. Toutes ces hausses ont été perçues par de nombreux Bulgares comme des moyens de dissimuler des détournements de fonds. Et le 3 décembre dernier, face à la pression populaire, le gouvernement avait déjà d'abord retiré son projet de budget. Ça rappelle un peu ce qui se passe chez nous. Mais cela a été visiblement insuffisant pour apaiser la crispation d'une partie de sa population. Ce mouvement national, apporté notamment fortement par la jeunesse bulgare, a donc pris de l'ampleur, dénonçant le manque de transparence et appelant à une responsabilité collective et à un renouvellement, surtout de la classe politique. D'ailleurs, ces manifestations ont pu mettre en avant l'influence de certains oligarques dans la vie politique bulgare. On peut citer M. Delian Pivski, un homme politique qui fait partie du Mouvement pour les droits et libertés, le DPS, qui était accusé en 2021 par la justice américaine de corruption. Il est un peu au cœur de ces tensions, et plus qu'un élément isolé, c'est un système politique entier qui fait donc l'objet de la colère de la population bulgare. Alors après l'annonce de cette semaine dernière, donc un vote officiel sur la démission du gouvernement doit avoir lieu lors de la prochaine session plénière du Parlement. où la coalition tient toujours la majorité. Le président Roumen Radev, maintenant, doit inviter les partis parlementaires pour former un nouveau gouvernement. Si aucun accord n'est trouvé, ce qui est probable, il devra nommer un gouvernement intérimaire qui dirigera le pays jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. C'est donc un début de crise politique majeure en Bulgarie, hein, qui fait surtout irruption à un moment charnière pour ce pays qui est celui de l'économie la plus faible de l'Union européenne et qui deviendra, ce 1er janvier 2026, justement, le 21e membre de la zone euro. Des revendications populaires contre la corruption et un ras-le-bol, en gros, d'une partie de la jeunesse qui sont un petit peu répandues dans toute la région. La Roumanie, la Hongrie, la Serbie, la Slovaquie, l'Europe centrale et des Balkans s'embrasent. Hein. C'est notamment sur le média en ligne Lutte Invisible que sont listés pas mal des mouvements qui agitent ce pays depuis plusieurs mois maintenant, voire même certains presque une année. On peut citer une manifestation massive qui a eu lieu à Bucarest, donc en Roumanie, c'était ce dimanche, une sixième journée de manif pour appeler un nettoyage de la justice roumaine, là, ce lundi 15 décembre. 10 000 personnes étaient dans les rues de la capitale Bucarest le dimanche en scandant « Justice, pas corruption, nous vous voyons » ou encore « Indépendance, pas obéissance ». Des milliers étaient également présents dans les rues des autres villes pour soutenir donc les juges. Hein. C'est la justice qui est au cœur là, de ces manifestations. 700 juges et procureurs dénoncent en effet les abus systémiques menés par le gouvernement. Ils ont signé une lettre ouverte sur les réseaux sociaux et ils se plaignent d'un dysfonctionnement profond et systémique dans leur système de justice. La lettre est d'ailleurs intervenue après que, enfin, cette pétition est intervenue suite à une révélation d'un média indépendant, là encore, qui s'appelle Recorder. Ça fait penser un peu à ce qu'on a chez nous, complément d'enquête. Donc, ce documentaire, diffusé la semaine dernière, a montré que les juges en chef, qui sont eux soutenus par la classe politique, utilisaient des failles juridiques pour des pratiques contraires à l'éthique, y compris notamment des acquittements très douteux de personnes mises en cause. Et ce documentaire montrait aussi que les juges ou les procureurs qui se plaignaient du système faisaient souvent face à des mesures disciplinaires, donc pas trop de séparation des pouvoirs. Les manifestations en Roumanie interviennent après de fortes manifestations mi-novembre, elles qui émanaient des syndicats et qui étaient ciblées contre l'austérité et là aussi le budget. En Slovaquie, des manifestations de masse ont eu lieu ce 16 décembre pour virer Fico, le chef du gouvernement. Des manifs ont d'ailleurs lieu chaque semaine, depuis plusieurs mois en début d'année. Elles ont repris ce mois de novembre avec le mouvement étudiant, le mouvement qui s'appelle le mouvement des Crais, et le limogeage du vice-premier ministre Peter Kmekspris, je ne sais pas si je le dis bien, dans un scandale, et plus particulièrement aujourd'hui avec l'abolition, à compter de ce 1er janvier, de l'Office de protection des lanceurs d'alerte. En gros, les personnes qui étaient témoins de cas de corruption ou d'une violation de la loi et qui souhaitaient le signaler, des lanceurs d'alerte, eh bien maintenant, avec cette abolition, ils ne bénéficieront plus d'aucune aide et de protection pour éviter d'être sanctionnés, par exemple, par leur employeur. Ce gouvernement, donc type un peu mafieux, se protège et la population le voit. L'institution de contrôle avait infligé, par exemple, dans le passé, 3 amendes au ministère de l'Intérieur. Et maintenant, cette institution de contrôle dégage à partir du mois de janvier, si ça s'est maintenu, parce que, je vous le disais, donc des manifestations massives ont lieu en ce moment même pour s'opposer à cela. Je vous propose aussi un petit tour, on sort de l'Europe, mais c'est toujours Lutte Invisible qui le relate, puisqu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. En Inde aussi, un mouvement paysan massif a lieu depuis bien longtemps, et cette révolte paysanne vient notamment de provoquer l'incendie d'une usine très polluante et appelle à une mobilisation nationale. C'est une mobilisation contre une implantation d'usine, la plus grande usine d'éthanol de toute l'Asie. On est à Hanumangar, dans l'état du Rajasthan, qui est un état qui est dirigé par l'extrême droite locale. Cette mobilisation paysanne dure depuis un an, mais elle vient de s'amplifier et elle se durcit depuis 2 mois, avec donc encore une accélération ce 10 décembre, où, face à la construction d'un mur d'enceinte pour protéger les premiers éléments des bureaux qui sont construits, les paysans ont enfoncé les forces de police, puis forcé et cassé le mur, et ils ont mis le feu au bureau et au véhicule de l'entreprise. Donc voilà, une mobilisation, une action assez directe. Depuis cette action phare, hein, puis du coup cet incendie a pas mal aussi embrasé les réseaux sociaux. Depuis cet événement, donc contre la répression et la volonté du groupe à continuer malgré tout à construire son usine, les paysans appellent à une mobilisation nationale, c'était hier, avec un Mahapanchayat, une AG de démocratie directe, pour décider de la suite. Et de nombreux paysans notamment sont venus de l'état voisin du Pendjab.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi je dis qu'il faut se battre.
Et dernier tour un petit peu de l'Europe et du monde. C'est en Grèce aussi que depuis le 30 novembre, le monde agricole grec est en colère avec des blocages de routes, des blocages de ports et d'aéroports. Et ce, face à l'inflation, mais aussi aux catastrophes naturelles et aussi et surtout au gel des aides européennes provoquées par un vaste scandale de fraude. Ces aides européennes qui sont donc normalement ciblées sur les agriculteurs et qui, à cause de ce scandale de corruption, n'arrivent plus. Les agriculteurs disent donc ne plus s'en sortir. Plus de 20 000 tracteurs ont barré des routes en Grèce, des ports et des aéroports ont été occupés par des agriculteurs en colère. Par exemple, à Héraklion, en Crète, des échauffourées ont lieu avec la police. Et le gouvernement, dirigé par Kyriakos Mitsotakis, hein, du groupe Nouvelle Démocratie, qu'on peut classer à la droite conservatrice, a décidé d'envoyer des renforts ainsi sur la plus grande île du pays, donc la Crète. Les fédérations d'agriculteurs, d'éleveurs, d'apiculteurs et même de pêcheurs grecs appelaient ainsi à bloquer le pays du fait du non-versement de ces aides européennes, je vous le disais, qui ont été détournées par l'agence gouvernementale chargée de les distribuer. Oups. Donc, entre-temps, les aides n'arrivent plus et ces gens qui sont déjà pris à la gorge n'ont plus grand-chose pour survivre. Dans le même temps, d'ailleurs, la fonction publique s'était mise en grève le 16 décembre, là, il y a deux jours, contre un budget austéritaire proposé par l'État, ce qui fait que les rassemblements ouvriers ont pris le caractère de manifestations massives de soutien au soulèvement des paysans qui luttent pour leur survie, marquant un pas donc vers une convergence de lutte commune des travailleurs et des paysans contre ce qui est, pour l'instant, on va le dire, leur ennemi commun. Ça nous ramène gentiment vers aussi la fronde et la colère qui touche le monde agricole avec cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Je ne vais pas vous faire le point sur tout ce qui s'est passé ces deux derniers jours. On en parle beaucoup. Juste un petit écho médiatique relevé dans les colonnes du journal Reporter, journal écologiste, et qui s'intéresse lui aux fausses informations qui se répandent à vitesse grand V, tout comme l'épidémie. Hein. Ils ont un petit peu essayé de pister les fake news qui se propagent à vitesse alarmante sur les réseaux sociaux et notamment dans les médias d'extrême droite. Une de ces fake news, la plus relayée, affirmerait que l'abattage des vaches ne serait pas lié à la maladie mais à des raisons écologiques. Et ils ont trouvé un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui recommanderait de réduire le nombre de bêtes en France pour respecter les objectifs climatiques. Donc il n'en fallait pas plus. Pour que notamment Pascal Pro reprenne l'info, il a repéré c'est l'association Quota Climat qui repère un petit peu justement la propagation des fake news qui s'attaque aux écologistes. On veut tuer des bovins pour combattre le réchauffement climatique, hein, c'est ce qu'a déclaré Pascal Pro sur sa chaîne CNews. C'était le 15 décembre dernier, enfin c'est pas sa chaîne, hein, c'est la chaîne de Bolloré, mais il y a un petit peu, je sais pas combien d'heures il y passe par jour. Sauf bon, qu'il n'y a aucun lien entre le rapport de la Cour des comptes et la maladie touchant les bovins. C'est le caractère très contagieux et la gravité de la DNC qui ont justifié le classement de la DNC en maladie de catégorie A. C'est l'Organisation mondiale de la santé animale hein, et l'Union européenne qui ont fait ces choix avec en découlant les protocoles dont on peut discuter évidemment derrière, mais rien à voir en tout cas avec une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. La stratégie sanitaire en vigueur au niveau européen, vous le savez, c'est d'abattre pour l'instant complètement les cheptels dans lesquels au moins une vache a été contaminée et de vacciner les cheptels voisins dans un périmètre de sécurité sanitaire, ce qui est une catastrophe pour les éleveurs qui se retrouvent victimes de cette maladie. Une autre fausse information quand même qui cible est partie d'une vidéo postée sur X le 13 décembre. Un internaute qui suit les blocages des éleveurs dans le sud-ouest affirmait que plus de 70 vétérinaires avaient refusé de participer à l'abattage des bovins et qu'ils avaient été radiés par l'ordre des vétérinaires. Ce sont des déclarations mensongères qui ont été démenties d'ailleurs par le préfet de l'Ariège et l'ordre des vétérinaires. Malheureusement, elles sont quand même diffusées sur notamment X via le réseau X qui appartient à Elon Musk et ensuite par le média d'extrême droite Frontières, dont on a parlé un peu plus tôt, et finalement ils les ont d'ailleurs retirées de... le média Frontières a retiré ces informations sur X, mais après vous savez, il est beaucoup plus compliqué de démentir une fake news que d'argumenter et d'expliquer pourquoi. Et enfin, plusieurs vidéos générées par IA, l'intelligence artificielle, ont aussi circulé sur X, TikTok ou Facebook, montrant des éleveurs en pleurs et avec des gendarmes en fond pendant que les vétérinaires procédaient à l'abattage des troupeaux. Donc méfie avec les vidéos que vous voyez et surtout que vous repartagez.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Eh ben non, il n'y aura pas de remontant ce coup-ci. J'en mets une dernière couche avant qu'on se quitte en musique. Une autre brève du Média Reporter qui s'intéresse aux fonds verts. Vous savez, les fonds verts auxquels vous pouvez diriger si vous avez de l'argent et que vous épargnez. Eh bien, dans les banques, ces fonds verts peuvent financer l'industrie de l'armement. Vous pensez faire un bon geste en investissant dans le fonds vert de votre banque ? C'est pas si sûr. Hein. Cette enquête vient d'être publiée par Mediapart et Vox Europe. Et on y apprend que 50 milliards d'euros issus des fonds verts des banques françaises et européennes ont en fait été investis dans la défense et l'armement en 2025. Ces 50 milliards d'euros ont donc profité à plus d'une centaine d'entreprises avec des activités militaires, près de 30 étant en Europe. On peut citer Safran, le plus gros bénéficiaire, qui lui est français, avec 5,6 milliards d'euros qui sont venus donc directement des fonds verts des banques. Safran fabrique des drones, des bombes de précision et les moteurs des chasseurs Rafale. Voilà le lien à l'écologie. Peut-être qu'ils plantent des arbres à côté, j'imagine. C'est comme ça qu'ils ont pu justifier ça. En tout cas, selon cette enquête, les banquiers sont libres de déterminer eux-mêmes les investissements qu'ils considèrent comme écologiques ou sociaux, à condition de pouvoir le justifier. Et le règlement européen, lui, autorise les fonds verts à investir justement dans la défense, sauf pour des fabricants d'armes controversés, par exemple ceux qui font des mines antipersonnelles. En France, par exemple, les fonds verts du Crédit Agricole, avec sa filiale Amundi, sont ceux qui financent le plus le secteur de la défense. Bravo le Crédit Agricole. Devant, on peut citer aussi Eleva Capital, le Crédit Mutuel ou la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Allez, on se quitte en musique, on va parler un petit peu des Pussy Riot, ce groupe punk, mais pas que, mais surtout un collectif artistique, militant, qui vient d'être classé comme organisation extrémiste par le ministère de la Justice russe. Les activités du groupe sont donc désormais interdites dans le pays. Bon, je crois qu'elles y mettaient quand même déjà plus beaucoup les pieds. En septembre, plusieurs membres ont été condamnés par contumace à des peines de 8 à 15 ans de prison pour un clip anti-guerre d'Ukraine. Ce clip s'appelle « Mama, don't watch TV ». Le collectif féministe s'oppose depuis des années à Vladimir Poutine à travers ses œuvres artistiques plutôt percutantes. On peut nommer en 2012 ce qui a bien fait connaître le groupe Pussy Riot, une prière punk qui demandait à la Vierge Marie de chasser le président russe. Cette prière a été chantée dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Et c'était notamment aussi avec cette action que la justice russe était mise en branle. La décision du tribunal était attendue par les membres du groupe. Ces idiots, ils travaillent depuis des années, au moins depuis 2012. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Nadia Tolokonikova dans un message publié ce dimanche sur son compte X. D'ailleurs, le message était accompagné d'un extrait d'une interview donnée en 2012 depuis une colonie pénitentiaire où elle avait été envoyée suite à avoir participé à cette prière punk. La loi, dit-elle, est faite pour effacer Pussy Riot de l'esprit des citoyens russes. Ça, c'est sur le compte Facebook du groupe, on peut voir ça début décembre, en amont donc de la décision judiciaire qui n'a pas surpris grand monde. En revanche, ça peut quand même avoir des répercussions. Ça fait des années que nous sommes radioactifs, expliquent les Pussy Riot, mais être désigné maintenant comme une organisation extrémiste va donner à l'État davantage de moyens juridiques, notamment pour punir les gens pour n'importe quelle connexion avec nous. Elles se disent donc ainsi très inquiètes pour la sécurité de leurs soutiens sur place qui ne peuvent pas quitter la Russie ou qui vont choisir d'y rester. Voilà, les Pussy Riot ont publié il y a 5 jours, hein, le 13-12, ce morceau qui s'intitule justement 13-12. Et je vous propose qu'on se quitte là-dessus et puis ça sera notre chant de Noël. On se retrouve quant à nous à la rentrée pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, gardez l'espoir. On se serre les coudes, on se retrouve à la rentrée sur votre radio préférée.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.